Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité: couvre-feu à Boulungu dans la province du Kwilu. L'administrateur du territoire affirme que cette décision fait suite à la montée de l'insécurité liée au présumé conflit entre les communautés Teke et Yaka, au Kwamout et au Maïndombe. Le président de l'initiative confessionnelle pour les forêts appelle à des mesures concrètes avant 2030 afin que les pays ayant des forêts tropicales humides et riches en carbone mettent fin à la dégradation des forêts naturelles. Requête formulée ici à Kinshasa par Mgr Donatien Cholet en marge des assises de la pré-COP27. Notre invité, c'est le directeur de l'Office national de l'emploi dans le Haut-Katanga. Gérard Kasongo affirme que plusieurs personnes viennent à l'ONEM chercher la carte des demandeurs d'emploi au motif que depuis le début de l'année, 4500 emplois ont été créés dans la province. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le Kwilu, l'administrateur du territoire de Boulungu a décrété un couvre-feu dans sa juridiction. Cette décision fait suite à la montée de l'insécurité liée au présumé conflit entre les communautés Teke et Yaka, à Kwamout et dans le Maïndombe. Bien plus, Bernardin Mwankimi interdit également la circulation des mineurs après 20 heures. À Bandunduville, Irène Mboma.
Ce couvre-feu décrété par l'administrateur du territoire de Boulungu commence de 22h, heure locale, jusqu'à l'aube, et cela va rester ainsi jusqu'à nouvel ordre pour sécuriser les paisibles citoyens de cette partie du Kwilu. Pour Bernard Mwankimi, il s'agit d'une mesure préventive à la suite de l'insécurité grandissante dans la province du Kwilu, mais surtout à cause de l'incursion des assaillants présumés Yaka au territoire voisin de Bagata.
Nous avons pris cette mesure, c'est par rapport à l'insécurité qui gangrène partout, surtout la situation qui prévaut dans la province de Maïndombe, territoire de Kwamout, et ce qui est arrivé dans le territoire de Bagata. C'est pour cela, étant qu'un bon chef, il faut prévenir déjà la population, il faut sécuriser la population. C'est pour cela, nous avons pris la décision d'organiser la patrouille pour la sûreté de notre population, tout en interdisant les mineurs de ne plus circuler au-delà de 20 heures.
Notez qu'à propos des informations répandues dans les réseaux sociaux faisant état d'une présence de personnes armées non autrement identifiées dans les parages de la cité de Boulungu, Bernard Mwankimi rassure que jusque-là, aucune personne identifiée comme telle n'a été trouvée par la police. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, 8 ans de massacre dans les territoires de Beni au Nord Kivu, c'en est trop. L'urgence des vraies opérations militaires pour traquer au plus vite les rebelles ougandais de l'EDF s'impose. Déclaration faite ce mercredi par un élu de ce territoire à l'occasion de ce triste anniversaire. Jean-Paul Ngarangondi est au micro de Marc Marofimo.
D'abord, sur le plan militaire, ce qui est appelé à être fait, c'est relancer les opérations. On a besoin des opérations militaires, des traques de ces rebelles. Comment voulez-vous espérer à la paix lorsque vous ne voulez pas lancer des opérations contre l'ennemi? Et notre armée sur terrain ne joue qu'à la défensive. Ça, je l'ai toujours dit. On a besoin plutôt des opérations d'offensive. C'est-à-dire amener la guerre à l'ennemi là où il est. La population a plus besoin des opérations militaires. Parce que l'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire national. Protéger la population, il sait bien. Une armée républicaine ne peut pas permettre qu'il y ait des gens porteurs d'armes sur le sol qu'ils contrôlent. Et dans le cas d'espèce à Beni, on voit des militaires qui se déploient là-bas, qui n'ont rien comme moyen pouvoir leur permettre à imposer la paix. Et la population est abandonnée. Et moi, je suis en train de dénoncer cette léthargie des autorités de ces pays qui sacrifient nos électeurs dans cette partie du territoire national.
En plus bref, au Nord Kivu, encore un mois après la rentrée scolaire, plusieurs centaines d'enfants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école dans les territoires de Rutshuru. Le responsable de la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme redoute la délinquance juvénile susceptible d'exposer les enfants au vol, au viol et à d'autres abus. Jean-Claude Mbabazé dit avoir échangé récemment avec le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais sans succès. En réaction, le chef des divisions de ces secteurs, Delphin Kanapungu, assure que des dispositions sont prises par les autorités locales, l'UNICEF et le PAM pour une solution durable. Au Sud-Kivu, pendant ces temps, 26 enfants associés aux groupes armés ont été séparés dans les territoires du Mwenga. Cette opération a été facilitée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO et ses principaux partenaires du 13 au 28 septembre dernier. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par la mission onusienne et ses partenaires auprès des divers groupes cibles. À Bukavu, c'est une correspondance de Rachel Kiesemangu.
Ces 26 enfants, dont 5 filles âgées de 14 à 17 ans, ont été séparés de la faction armée Mai Mai Biloze Bichambouké, un groupe qui est sous le commandement du général autoproclamé Jean-Pierre Mugengere Amikenge dans le territoire de Mwenga. Selon le rapport de la section protection de l'enfant, les victimes ont été recrutées entre janvier 2019 et avril 2022 dans plusieurs localités du territoire de Mwenga. Un recrutement pour protéger leur communauté contre les attaques des groupes armés. À la suite de leur recrutement, ils ont été enrôlés à une formation militaire basique avant d'être utilisés pour plusieurs activités dont celle de combattants. À la suite de leur séparation, ils sont placés dans des familles d'accueil en attendant la réunification familiale. Pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants ainsi qu'aux violations graves, la MONUSCO section protection de l'enfant Sud-Kivu a entamé des négociations. Les discussions visent à engager les leaders des groupes armés par la signature d'une feuille de route à libérer les enfants associés à ces groupes. Signalons qu'au cours du une mission à Niabiboué, dans le territoire de Kalehe, la section protection de l'enfant a renforcé les capacités de 20 officiers FARDC sur le droit et la protection des enfants dans les contextes de conflits armés. Bukavu, Rachel Kissé pour Radio Okapi.
Sud-Kivu encore, les activités ont repris hier mardi dans la cité de Kamanyola, territoire de Walungu, au lendemain de 2 jours de manifestations publiques après l'assassinat d'un commerçant. Les jeunes en colère ont dressé à l'occasion des barricades sur l'artère principale entre le pont de Kamanyola et la frontière avec le Rwanda. Les manifestants réclamaient donc le relèvement de l'unité des FARDC qui venait d'être déployée il y a quelques jours dans ce groupement. Le chef de la contrée, François Matabaro Migabo, affirme qu'une solution a été trouvée par le commandant de la 33e région militaire. Radio Okapi Uvira, Fiston Gomamayabala.
Le dernier soldat de l'unité des FARDC, incriminé dans la tuerie du jeune commerçant de Kamanyola, s'est retiré ce mercredi dans la matinée. Cette unité des FARDC est déployée ailleurs et du coup, elle est remplacée par une nouvelle unité de l'armée. Le commandant de la 33e région militaire des FARDC Sud-Kivu, le général Yavungola, a assuré en personne cette relève telle qu'exigée par la jeunesse de Kamanyola. Le chef de cette entité s'est dit satisfait. Il souhaite que cette solution apporte un soulagement face à l'insécurité grandissante à Kamanyola. François Tabaro Migabo Papi.
Les élèves sont partis à l'école, nos mamans sont parties au champ et les équipes ont commencé depuis plusieurs vers mouvements. Donc toute la population va déjà à ses occupations.
Signalons qu'un député provincial et un national élu de Walungu ont combattu avec la population locale. L'un d'eux a apporté une assistance en nourriture à 1 000 000 de voyageurs bloqués depuis 2 jours à Kamanyola. Lundi dernier, une manifestation spontanée des jeunes avait provoqué une tension après qu'un groupe de militaires de FARDC ait été soupçonné d'avoir assassiné un jeune commerçant dans un quartier de Kamanyola. Douvira Fistongo Mayabala, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, notez que l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en RDC recommande vivement au gouvernement réuni à la pré-COP 27 de prendre des mesures concrètes pour que d'ici 2030, les pays ayant des forêts tropicales humides et des plus riches en carbone du monde aient les moyens nécessaires pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles. Déclaration faite à Kinshasa par Mgr Donatien Cholet, président de cette structure qui participe aux assises. Explication de Paul Matendo.
Dans sa déclaration, Mgr Donatien Cholet insiste particulièrement sur le besoin des femmes.
Considérant que les femmes sont les plus exposées, les grandes multinationales ainsi que le gouvernement devront tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la mise en place de stratégies d'adaptation et d'atténuation.
Parlant du secteur des hydrocarbures, l'IRI RDC demande à la COP 27 que les fonds verts pour les climats ainsi que les autres mécanismes de la finance climatique permettent effectivement à la RDC d'éviter l'exploitation du pétrole et du gaz.
Nous demandons à l'Assemblée de la Pré-COP 27 de faire en sorte que les fonds verts pour le climat ainsi que les autres mécanismes de finance climatique permettent d'éradiquer la pauvreté et d'assurer l'accès universel à l'énergie propre à la RDC.
L'IRI RDC est une alliance multifonctionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation.
Merci Paul Matendo pour ces précisions. En prélude à la révision du fichier électoral pour les élections de 2023 en RDC, la CENI vient de déployer des équipes de repérage des sites pour l'identification et l'enrôlement des électeurs congolais de l'étranger pour mener à bien cette opération politique prévue en décembre prochain. La CENI a retenu l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, les États-Unis et le Canada. D'autres précisions avec vous, Jeff Ngoy.
La CENI prévoit de faire participer les Congolais de la diaspora au processus en cours. Il s'agit d'un projet pilote. C'est dans ce cadre qu'elle lance des missions de repérage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. Ces différentes délégations sont déjà à pied d'œuvre depuis lundi dans ces pays en prévision de l'opération de la révision des fichiers électoraux. Le but étant de recueillir toutes les informations utiles pour le dit enrôlement. Les premières rencontres se font dans les ambassades congolaises. Au cours de ces échanges, les chefs des missions diplomatiques congolaises se réjouissent de l'option prise par la centrale électorale de prendre en compte les Congolais de l'étranger. Ils souhaitent voir une adhésion massive des populations à ces opérations en accomplissant le moment venu ce devoir civique à l'instar des autres Congolais. Le choix porté sur ces cinq pays se justifie, selon la CENI, par la fluidité, l'accessibilité et la forte concentration des Congolais en lieu et place des pays limitrophes de la RDC où se pose le problème récurrent de l'insécurité et des conflits de frontières.
Notez également que c'est aujourd'hui la journée internationale de l'enseignant. À cette occasion, Madame Yvonne Kalezo, enseignante à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, depuis 30 ans, a exhorté les autorités du pays à se soucier de ceux qui font ce métier pour la nation. Pour marquer l'événement, Radio Kapi l'a rencontré aujourd'hui. Reportage à Bukavu de Cynthia Bachizina Bizana.
Bonjour les amis.
Bonjour Madame Yvonne.
Asseyez-vous, croisez les bras.
Cela fait 34 ans que Madame Yvonne fait le même rituel. Et pourtant, la cinquantaine révolue, cette mère et grand-mère n'a pas perdu la fougue ni la passion dans l'exercice de son métier.
Parce que je suis toujours avec les enfants, on rit, on saute, on est là, on est fort, oui, on est bien, malgré les épreuves, on est bien. L'enseignement, c'est bien, parce que si tu as la force, tu travailles. Tu peux laisser seulement quand tu tombes malade, quand tu vois que ça ne va plus, ou bien quand tu trouves un autre travail.
En 34 ans, Madame Yvonne a vu les conditions sociales des enseignants se détériorer, surtout dans le secteur public.
Pensez beaucoup aux enseignants, parce que grâce aux enseignants, vous êtes autorité. C'est tout ce que je peux dire aux autorités.
Madame Yvonne puise probablement sa passion, sa force de continuer de ses élèves de première année primaire de l'école privée agréée qui ne tarissent pas d'éloges à son égard.
J'aimerais dire à Madame Yvonne qu'elle est une très gentille maîtresse et qu'elle nous a toujours appris des bonnes choses à l'école.
Merci Madame Yvonne.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Peut-être un espoir pour des pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré alors que les combats font rage. Actuellement, l'Union africaine a officiellement convié aujourd'hui les belligérants à des discussions directes en Afrique du Sud samedi prochain sous la médiation de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Cette proposition semble avoir été acceptée par les deux parties. Objectif affiché, délibéré officiellement sur une résolution durable du conflit. 29 personnes dont 4 agents de santé sont mortes d'Ebola en Ouganda depuis l'annonce de la présence d'une épidémie au centre du pays. L'OMS affirme ce mercredi que 63 cas confirmés et probables ont été recensés, y compris 29 décès. L'OMS précise également que 10 agents de santé ont été infectés et 4 sont morts. Enfin, réunis ce mercredi à Bruxelles en Belgique, les 27 ambassadeurs des États de l'Union africaine se sont mis d'accord pour un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Ces sanctions entreront en application dès leur publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Ces sanctions attendues depuis plusieurs jours font suite à l'annexion la semaine dernière par la Russie de 4 régions ukrainiennes.
l'invité.
Notre invité, c'est le directeur de l'Office national de l'emploi du Haut-Katanga. Gérard Kasongo affirme que plusieurs personnes viennent à l'ONEM chercher la carte des demandeurs d'emploi au motif que depuis le début de l'année, plus de 4500 emplois ont été créés dans cette province. Il est interviewé à Lubumbashi par Jean Gandou Kabongo.
Gérard Kasongo, bonjour.
Bonjour.
Quel est le rôle de l'Office national de l'emploi dont vous êtes le directeur provincial?
La mission qui lui a été confiée consiste à promouvoir l'emploi et réaliser en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, c'est-à-dire les créateurs d'emplois, la meilleure organisation du marché de l'emploi. Pour accomplir sa mission, l'ONEM est chargé de l'intermédiation, c'est-à-dire le rapprochement entre les chercheurs d'emploi et les créateurs d'emploi. Dans cette activité-là, l'ONEM est chargé d'accueillir, d'organiser des entretiens avec les demandeurs d'emploi, les orienter et les enregistrer pour constituer ce que nous appelons une base de données des demandeurs d'emploi.
Mais lorsque vous établissez cette base de données et après vous remettez une carte des demandeurs d'emploi, alors dites-moi, en quoi est-il important d'en avoir?
La carte de demandeur d'emploi, en fait, c'est un document qui nous permet de tracer le parcours du demandeur d'emploi. C'est-à-dire, le jour où il trouve l'emploi, cette carte doit être retournée pour nous permettre de mettre à jour cette base de données. Et quand quelqu'un trouve l'emploi, normalement, il est désactivé. C'est ça qui nous permet, en fait, de tracer, en fait, la mobilité et le parcours du demandeur d'emploi. Ils viennent avec leur carte d'identité, deux photopasseports, leur pièce d'études. S'ils n'ont jamais travaillé, s'ils viennent de terminer leurs études, et s'ils ont un passif professionnel, ils viennent aussi avec leurs documents justifiant, bien sûr, leurs références professionnelles antérieures. La carte est gratuite. Ça nous permet aussi de mieux gérer les statistiques en matière d'emploi.
Pouvons-nous avoir le nombre d'emplois qui ont été créés depuis le début de cette année?
Depuis le début de cette année, je suis en mesure de vous dire que selon l'enregistrement des contrats qui nous arrivent, nous sommes à plus de 4500 contrats enregistrés pour la province du Haut-Katanga.
Et quels sont les secteurs qui ont créé le plus d'emplois?
On pourrait peut-être penser directement au secteur des mines, mais c'est beaucoup plus le secteur des services. Il y a les gardiennages, il y a aussi d'autres services. Donc, les activités de conseil, les activités de consultance, il y a aussi beaucoup d'emplois qui se créent dans ces secteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on avance en âge, plus les chances de trouver l'emploi diminuent. Sauf, bien sûr, si vous justifiez d'une forte expérience professionnelle et que le besoin exprimé est difficile à être comblé. Là, alors, l'employeur est obligé de prendre des gens qui ont un âge avancé. Sinon, dans les recrutements, on ne va pas au-delà de 45 ans.
Vous ne pensez pas que 4000 emplois, c'est quand même peu quand on considère qu'il y a beaucoup d'entreprises minières, il y a beaucoup d'entreprises de services et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un chiffre noir que vous ne maîtrisez pas?
Il est vrai que aujourd'hui, il y a des emplois qui se créent. Il y a des entreprises qui se font enregistrer. C'est vrai, il y a des informations qui peuvent nous échapper. Vous devez savoir que l'ONEM est essentiellement basé dans les grandes villes. Nous ne sommes pas implantés à l'intérieur de la province. Là, il est tout à fait normal que s'il y a des choses qui se créent à ce niveau-là, pour que l'information nous parvienne, il faut que, au niveau de ceux qui créent ces entreprises, ou qui créent ces emplois, qu'ils se souviennent qu'il y a des lois auxquelles ils doivent se soumettre. Là, alors, ils viennent et nous apportent les informations.
Qu'adviendra-t-il à une entreprise qui recruterait les demandeurs d'emploi qui ne soient passés par chez vous?
En fait, une entreprise qui ne respecte pas la procédure, elle doit être normalement sanctionnée. Ça constitue une entrave à la procédure et ça ne nous permet pas à ce moment-là de fiabiliser nos statistiques. Or, quand nous on doit parler de la meilleure organisation du marché de l'emploi, on doit maîtriser en tout cas les statistiques. Toute entreprise, normalement, ne peut pas prendre quelqu'un non identifié à l'ONEM. C'est une entrave à la procédure.
Gérard Kassongo, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de l'Office national de l'emploi du Haut-Katanga. Gérard Kassongo était interviewé à Lubumbashi par Jean Gandou Kabongo. Et c'est la fin de cette édition d'information à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci de l'avoir écouté. Merci aussi à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchige.